m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Alors, je commence, ami du lundi. Bonsoir, Hardy. Et bienvenue donc pour un nouveau numéro de Restons Courtois. Alors ce soir, justement, nous avions envie de dire du mal. On voulait dire du mal d'Emmanuel Macron pour célébrer sa dernière année au pouvoir, la quille. Et pour cela, nous avons donc fait appel à un expert, qui est Marc Hainaut, auteur de L'ampleur des dégâts, aux bien nommées éditions de l'Artilleur. Et alors, il nous expliquera tout à l'heure que ça n'était pas parti d'une mauvaise intention, mais le résultat est là. Avec lui, donc, nous reviendrons sur les années passées d'Emmanuel Macron, évidemment, mais nous essaierons aussi donc, de nous projeter sur les dégâts qu'il peut encore causer dans l'année à venir. Et donc, quel chantier peut-il mettre en œuvre pour redorer son image, sinon à nos yeux, du moins au sien? Quel pouvoir garde-t-il? Ça, c'est quand même un vrai sujet. Quelle est sa capacité de nuisance? Je pense qu'ils sont un paquet à se le demander en ce moment. Si je m'appelais Édouard Philippe ou Gabriel Attal, l'air de rien, je m'inquiéterais plus que si je m'appelais Marine Le Pen, par exemple.
Pas faux.
Qui va-t-il soutenir pour les succéder? Comme la corde soutient le pendu. Donc, et puis surtout, un président, en fait, peut-il accepter une succession? C'est un grand sujet de philosophie, ça, on a 2 heures. Mais,
absolument. Aura-t-il un héritier? Y a-t-il un héritier?
Et est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il peut supporter un héritage? Enfin, un héritier, en tout cas. Alors voilà, c'est quelques-unes des questions que nous nous poserons et que nous poserons à Marc Hainaut. Et puis après, nous passerons à notre traditionnel rendez-vous de la réinformation. Alors au programme, l'étrange profil de la directrice du compte X French Response, en bon français, qui est un compte gouvernemental sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, mais dont l'équipe semble pour le moins hétéroclite et même vaguement douteuse, et surtout sa créatrice, qui s'appelle Marie Doa Besancenot, comme le facteur, qui coche... pour te dire, au
ça
début...
ne veut rien dire par rapport à ses positions de naissance.
Non, ça...
Et c'est un homonyme, je crois, en plus. Aucun lien de parenté avec le facteur.
Vu la différence sociale, je pense que non. Non. Marie Doa Besancenot est née à Doha, on le verra. Et donc c'est intéressant parce que elle n'a aucun lien de famille avec le facteur, donc, mais elle coche quand même toutes les cases du politiquement correct. Mais surtout, beaucoup plus grave, elle est potentiellement perméable à des influences étrangères. Vous remarquerez comment je dis ça en maîtrisant l'antenne. Potentiellement perméable à des influences étrangères, c'est quand même joliment dit. Et
c'est blindé.
C'est Arcom.
C'est blindé.
Potentiellement pas tout à fait imperméable.
Vous nous expliquerez ça. En tout cas, voilà, la question, c'est contrer les influences étrangères avec une personnalité potentiellement sous influence étrangère, était-ce bien raisonnable? Et est-ce que son pédigré était connu des autorités qui l'ont nommé ou pas? Et quelqu'un parle dans une pièce, peut-être est-ce que c'est chez nos amis dans la Grande Lucarne, mais il faudrait faire silence ou fermer les micros, ce serait bien. Merci. Et surtout, donc voilà, est-ce que son pédigré était connu ou non? C'est une grande question. Et ce que Pierre Sautarel, donc le patron du site F de Souche, a découvert en 3 clics, a-t-il pu échapper au limier de nos services? C'est une vraie question. Procès Sarkozy ensuite. 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. C'est ce que le parquet général a requis mercredi dernier, donc devant la cour d'appel de Paris, dans le cadre de l'affaire dite du financement libyen. Brice Hortefeux et Claude Guéant donc, ont-ils financé la campagne de leur patron à l'insu de son plein gré? Est-ce qu'il était au contraire parfaitement au courant et aux commandes? Kadhafi et ses amis ont-ils menti de A à Z pour salir la réputation de notre ancien président? La peine est-elle juste ou injuste? Voilà, les plaidoiries de la défense ont commencé aujourd'hui, ce lundi, et donc nous allons y ajouter les nôtres et rien ne nous en empêchera. International ensuite, avec les manifestations géantes contre l'immigration en Angleterre. La semaine dernière, donc, les populistes, on l'avait évoqué, ont remporté une grande victoire aux élections locales avec Reform UK, le parti de Nigel Farage. Et samedi, un peu dans la foulée, des centaines de milliers de manifestants ont marché pour protester contre l'immigration à l'appel de Tommy Robinson. Radio Courtoisie y était, si vous avez suivi ça sur nos réseaux sociaux, vous l'avez constaté. Dans Ligne Droite également, avec notre journaliste Maëlys Clausel. La question c'est, est-ce que cette victoire aux élections locales, ces manifestations géantes qui se renouvellent, ce ne sont pas les premières, vont inciter le gouvernement socialiste anglais à lutter contre l'immigration? Ben, c'est loin d'être sûr. Et a priori, c'est même l'inverse. Si l'on en croit les mesures d'interdiction de territoire qui ont été prises, notamment contre Philippe de Winter, le député flamand, qui avait été invité par Tommy Robinson à prendre la parole au cours de ces manifestations, et de manière générale dans la politique du gouvernement anglais. Voilà, donc on parlera de cela. Et puis enfin, s'il y a un sujet qui semble décider, lui, à lutter contre le fléau de l'immigration, eh bien ce sont les États-Unis qui ont refusé la semaine dernière de participer au Forum international des migrations organisé par l'ONU, avec un motif officiel délivré dans un communiqué de presse, donc c'est quand même ce qu'il y a de plus officiel. Je cite « Les États-Unis ont constaté que l'ouverture de nos portes à une immigration de masse était une grave erreur qui menace la cohésion de nos sociétés et l'avenir de nos peuples. L'objectif des États-Unis n'est pas de gérer la migration, mais de favoriser la remigration. » In French dans le texte, c'est quand même pas mal. Et enfin, donc, nous parlerons du film également qui vient d'être consacré à Samuel Paty et qui crée des polémiques pour le moins inattendues, puisque la gauche conteste ce film qui serait évidemment islamophobe et qui ne serait pas correct, quoi. C'est-à-dire on ne peut même plus décapiter les gens tranquillement. C'est quand même invraisemblable. Non, on plaisante, mais c'est une histoire de fou. J'avoue que je ne pensais pas que quiconque puisse créer une polémique sur la mort, la décapitation d'un professeur d'histoire par un islamiste. Je ne pensais pas que ça pouvait poser le moindre problème que l'on commémore cet assassinat. Eh bien, si, nous avons après la droite la plus bête du monde, on a vraiment la gauche la plus immonde du monde. Voilà, pour parler de tout ça, j'ai néanmoins le plaisir d'accueillir les douaniers de la réinformation, ceux qui vont fermer les frontières et organiser la remigration, avec Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie.
Bonsoir.
Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect.
Bonsoir.
Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia.
Bonsoir.
Alexis Poulain, directeur du Monde Moderne.
Bonsoir.
Claudia aux commandes et donc Marc Hainaut, qui est journaliste à Valeurs Actuelles.
Absolument.
Et qui est donc ce soir principalement l'auteur de L'ampleur des dégâts aux éditions de L'Artilleur.
Et bonsoir.
Et en plus, légèrement familier
légèrement,
de la boutique.
Cette radio ne m'est pas étrangère, loin de là.
Alors, chers auditeurs, vous pouvez envoyer vos courriers et vos questions, vos remarques, vos coups de gueule, vos colères, vos idées. Des recettes de cuisine, voilà, je sais pas si vous en avez, en écrivant à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou en téléphonant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, et nous lirons tout cela donc à l'antenne. Nous commençons avec Marc Hainaut, donc dernière année, Macron peut-il faire pire? Ce sera la grande question que l'on va vous poser. Donc il y a quelques mois, vous avez publié L'ampleur des dégâts, comme je viens de le dire. Marc Hainaut, vous êtes diplômé de sciences politiques, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, alors vous connaissez peut-être un peu le principe de l'émission, s'il vous arrive de l'écouter aussi fidèlement que moi je vous écoute.
Merci, bien sûr, bien sûr.
Quel menteur.
Certainement, au moins autant si ce n'est plus, Pierre-Alexandre.
Première question, on va parler de vous. Alors, comment est-ce qu'on devient étudiant à Sciences Po?
Alors, diplômé en sciences politiques, et c'est là qu'est l'arnaque, cher Pierre-Alexandre Bouclet. Diplômé en sciences politiques, ça a l'avantage d'être assez large. J'ai une licence de sciences politiques obtenue à l'excellent Institut catholique d'études supérieures.
Ah, c'est bien.
Voilà, en Vendée. Voilà, j'ai eu comme professeur des noms que les auditeurs de Courtoisie connaissent bien, comme Guillaume Bernard notamment, le politologue Guillaume Bernard. Voilà, donc en termes de diplôme, c'est à peu près tout. Et il se trouve que j'ai cette particularité, mais je crois qu'il n'est pas unique autour de ce plateau, c'est que je n'ai jamais fait d'école de journalisme.
Moi non plus.
Et que voilà, je pense qu'on est nombreux. Mais, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas.
On est très nombreux à être des amateurs éclairés.
Pour ne pas dire quasi unanimes.
Et pour être tout à fait honnête, même j'ai une petite anecdote. Mon premier employeur était l'ancien directeur d'une école de journalisme, mais il m'avait recruté exprès pour cela, en me disant comme ça, j'aurais pas à vous désapprendre tout ce que vous aurez mal appris.
C'est beau. Oui. Très beau. En tout cas, c'est extrêmement lucide. C'est très lucide. En tout cas, c'est assez admirable. Non, alors pour tout vous avouer, en plus, ma première expérience professionnelle, ça a été un stage dans un cabinet politique et pas n'importe lequel, celui de Jean-François Copé, qui était à l'époque président de l'UMP. C'est vous dire à quel point cela vient de loin.
Ah oui, vous venez de loin, effectivement.
C'est un gage de moralité.
Ah bah, j'ai commencé, en tout cas, dans le bloc central.
Et alors, d'où venez-vous? Parlez-nous de vous.
Flattez-moi,
mon bon Blas. Qu'est-ce qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi, comme disait la biche. D'où viens-je? Je suis né à Saint-Amand-Montrond. J'ai grandi essentiellement entre Carpentras et Versailles. Et ça fait pas mal de chemin.
Une belle diagonale.
Mon père n'était pas militaire, mais il était commercial et déménageait énormément, ce qui fait qu'on a fait des jolis tours de France. Et licence de sciences politiques à lycée, je n'ai jamais été un élève très très assidu et très brillant. Des masters que j'ai commencé sans jamais vraiment terminer, avec une seule hâte, retrouver la vie professionnelle et devenir journaliste. Donc en ne faisant pas d'études liées à cela, mais en tout cas en venant d'un milieu où on m'a très souvent dit que c'était pas une très bonne idée, parce qu'il n'y avait pas de boulot, parce que de toute façon il n'y avait que des gens de gauche et qu'il valait mieux trouver un emploi stable avant de se lancer dans des études de troubadour. Et
un vrai boulot.
Voilà, et ça, donc j'ai fait quelques stages donc à la présidence de l'UMP, chez Valeurs Actuelles en 2014. Je suis passé ensuite par la communication interne dans une entreprise de BTP, pour faire un peu connaître un petit peu le monde de l'entreprise avant de se convaincre définitivement qu'on était appelé ailleurs, et une alternance à Radio Notre-Dame, donc station de radio catholique en Ile-de-France. Et je suis parti à Caen, travailler dans la presse locale pendant 4 mois. Et à la fin de la période d'essai, je suis parti persuadé que la Normandie n'était pas vraiment une terre d'accueil. C'est la difficulté d'ailleurs quand on fait...
La Normandie ou la presse quotidienne régionale?
C'est les deux, mon général, parce que je pense que pour être un bon journaliste régional, il faut être à minima, venir de la région et bien la connaître, ce qui n'était absolument pas mon cas. Donc au bout de quelques mois, je suis parti et je suis rentré chez Boulevard Voltaire. Assez rapidement, j'y ai passé 5 ans, j'ai eu notamment la joie de collaborer à l'Incorrect dès ses débuts, et je me suis retrouvé voilà. J'ai laissé d'impérissables souvenirs à Arthur de Vatrigan.
Non, parce que pour moi, vous n'étiez jamais parti, c'est pour ça.
Ah, là,
c'est beau.
C'est parce qu'il ne se souvient pas des stagiaires, le salaud. Je
n'étais pas stagiaire du tout.
Non, j'étais contributeur et extérieur et intérieur.
Ah, d'accord.
Ouais, quand même. Et après tout cela, je suis arrivé chez Valeurs Actuelles après l'été.
Ça, c'est en quelle année alors?
Alors, Valeurs Actuelles, donc c'était juste après, c'était quelques mois après le départ d'une partie de l'équipe au JDD. Donc c'était quelque part l'été, juste après l'été du divorce, en quelque sorte.
D'accord, donc ça va être 2021 de mémoire.
C'était un peu plus tard, que j'étais après l'élection présidentielle, donc c'était en octobre 2023 de mémoire.
Ah, 23, ah oui.
Donc cela fait un peu plus de 2 ans que je suis chez Valeurs Actuelles. J'ai commencé au web, je suis maintenant au service politique, où je traite essentiellement de la gauche et de reconquête.
D'accord. Eh ben, voilà, on va revenir assez large sur votre métier. Alors, n'hésitez pas, les amis, si vous voulez poser des questions à Marc Hainaut. Mais l'ICES, c'est un peu comme Sciences Po Paris, c'est pas absolument neutre.
Oui, mais on y apprend des choses.
Je ne vous lâcherai pas.
On y apprend des choses quand même.
D'où venez-vous alors? Qui sont vos parents? Comment est-ce qu'ils ont décidé de vous mettre à l'ICES? Est-ce que c'est vous qui vous êtes révolté et qui êtes parti dans l'enseignement catholique?
C'est une décision totalement personnelle, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu, enfin qui ont toujours parti du principe qu'on faisait les études qui nous plaisaient et que le plus important étant qu'on ait un métier qui nous épanouisse, et enfin en tout cas des études qui nous épanouissent. Et mon père est aujourd'hui à la retraite, il a été chef d'entreprise, et ma mère a été professeure, documentaliste, et est aujourd'hui elle aussi à la retraite.
D'accord.
Et ils vivent dans le centre de la France, dans le Berry, là où nous avons nos racines familiales maternelles, pour tout vous dire.
Ah bah c'est une très belle région. C'est là où notre camarade Pierre Gentillet essaye de se faire élire.
Il était candidat dans notre circonscription. D'ailleurs, je suis originaire de la circonscription où Pierre Gentillet était candidat en 2024.
Ah bah c'est bien. Comme ça, on pourra créer des bastions.
On a repéré deux des électeurs de Pierre Gentillet.
Voilà.
Je n'ai pas visé la carte d'électeur de mes parents, mais.
Alors, vous parliez de journalisme politique. Qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un journaliste politique ? C'est-à-dire, Marc Hainaut se lève le matin, comment ça se passe ? Parce que les auditeurs de Radio Courtoisie lisent sans doute vos articles, mais je ne pense pas que les gens se figurent ce qu'est le quotidien. Voilà. Enfin, comment on les fait rentrer dans les coulisses de votre travail ?
C'est surtout partir de... Alors, depuis quelques mois, et là, c'est un peu peut-être partir du principe que quel que soit le sujet que l'on veut traiter, surtout quand cela part de la vie politique, c'est considérer que la plupart des gens soit n'en ont plus rien à faire, soit sont totalement dégoûtés par ce qui est en train de se passer, a fortiori quand on traite de la gauche chez Valeurs Actuelles, c'est qu'on sait qu'on n'est pas... que les personnalités dont on va parler ne sont pas spécialement admirées ou suivies par nos lecteurs, donc... C'est aussi l'avantage lorsqu'on travaille pour un média de droite de travailler sur la gauche, c'est que ça enlève toute notion d'affect ou d'opinion personnelle, c'est qu'on traite vraiment un camp qui est autre, avec qui on peut être en opposition sur bien des idées, mais en tout cas avec qui on peut garder une forme de neutralité, puisque après tout l'essentiel est de rapporter simplement leurs faits, gestes et paroles, et nos lecteurs se chargeront de les détester à notre place si vous voulez. Donc c'est ça qui est assez pratique et ça donne, je trouve, une liberté en tout cas totale dans la façon d'appréhender ces parties-là.
Comment vous travaillez sur des journalistes, enfin sur des politiques de gauche ? C'est-à-dire, vous allez les voir, vous leur téléphonez, vous avez des... Comment est-ce que vous obtenez des informations non officielles ?
C'est un petit peu compliqué, effectivement. Alors je suis arrivé en plus après la triste affaire au Bono. On se rappelle de la polémique qu'il y avait...
Ah oui, mon Dieu.
Oui, bah, je n'en étais pas, mais on en paye encore, c'est un prix qu'on paye avec grand plaisir, mais on en paye un petit peu les conséquences encore aujourd'hui, ce qui fait qu'effectivement les ponts sont totalement coupés, par exemple, entre la France Insoumise et les médias de droite de manière générale. Donc, de toute façon...
Peut-être pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui auraient raté l'affaire au Bono, leur rappeler en deux secondes, mais c'était le feuilleton de l'été.
Voilà, c'était un feuilleton de l'été, donc une fiction de l'été, et l'objectif, alors de mémoire, cette fiction estivale, l'objectif était de montrer des personnalités politiques contemporaines dans des passages et dans des endroits de l'histoire de France. Il y avait, alors je n'ai plus vraiment les exemples en tête parce que je n'y étais pas, mais en tout cas pour l'affaire au Bono, dans la mesure où cette députée de Paris avait un langage très pro-indigéniste, très anticolonial, l'idée, et avec une parole on va dire assez francophobe, l'idée c'était de la mettre dans la peau justement d'une esclave pour qu'elle voit un petit peu la réalité en fait de voilà. Enfin, en tout cas il y avait un décalage qui avait été considéré à l'époque comme humoristique. Je pense qu'effectivement au sein de Valeurs Actuelles, personne n'avait vraiment prédit ce qui allait se passer, sauf que évidemment il y avait eu aussi des dessins à l'époque, et les dessins ont été considérés comme offensants, choquants, que le fait qu'en plus que Danielle Obono soit une députée de couleur noire, ça a évidemment été une circonstance aggravante pour l'opinion publique. Donc cela a créé une cabale énorme. Évidemment, la France Insoumise s'est empressée d'attiser tous les feux possibles sur cet incendie pour le faire gagner en ampleur, et cela a été défendu avec beaucoup de courage et de panache à l'époque, je trouve, par la direction de Valeurs Actuelles, par le directeur de Valeurs Actuelles, qui était Geoffroy Lejeune à l'époque, et aussi Tubuel Denis, qui est l'actuel directeur de la rédaction.
Oui, et puis objectivement, il n'y avait rien de très très grave.
Sauf pour Balladur.
Ah oui, ça je me souviens.
Je pense que s'il y a une personne qui pouvait porter le plan, c'était lui.
C'était très drôle, mais très méchant.
Mais il faudra, on va attendre votre départ, Marc Hainaut, mais il faudra qu'on fasse un sujet sur l'esclavage et les réalités de l'esclavage, parce que c'est un sujet vraiment important.
On pourra parler de Magayoko.
Bah, par exemple, et qu'il y a eu une polémique avec Marion Maréchal ces derniers jours. Et réellement, je pense qu'il y a des points d'histoire à faire pour savoir comment il faut parler des choses. Et ça, c'est un sujet vraiment important. Et en plus, d'un point de vue académique, est parfaitement balisé. Donc, on peut y aller assez tranquillement. Bref, fin de la parenthèse. Donc, l'affaire au Bono a eu un impact. Vous arrivez après cette affaire, aucun... un homme de gauche ne veut vous adresser la parole.
Si, alors quand même, évidemment, on travaille bien évidemment avec les personnalités politiques, en tout cas qui sont sur le devant de la scène, et après qui ont évidemment tout un armada de conseillers, d'entourage, etc., qui parfois on trouve un intérêt à dire des vacheries, ou en tout cas même tout simplement joue le jeu démocratique, en fait, qui est de donner la parole à tout le monde. Et à partir du moment où ils ont une relation de confiance avec le journaliste et qui savent que leurs propos ne seront pas déformés, que ce sera fidèlement retranscrit et fait avec la plus grande honnêteté possible, et ben en fait on peut créer des relations de confiance avec des personnalités qui viennent du Parti socialiste, du Parti communiste français, des écologistes, et voilà, bon, la France insoumise, ça reste plus compliqué pour les raisons que je viens de vous évoquer.
Arthur de Vatrigan.
Est-ce que c'est plus difficile quand on est dans un magazine ou un média d'opinion, donc engagé à droite ou à gauche ou à l'extrême centre, est-ce que c'est plus difficile quand on est droit de travailler sur la droite ou quand on est droit de travailler sur la gauche? Parce que sur la droite, a priori, on a plus d'informations, on est plus au fait des choses parce que c'est des gens qu'on connaît. Et sur la gauche, de fait, quand on est de droite, on a une distance qui se fait automatiquement. Sauf que balancer sur les gens de droite, c'est compliqué aussi.
Je pense que la réponse différera beaucoup du journaliste que vous avez en face de vous. Moi, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que je trouve plus facile, en tout cas, de travailler sur la gauche, parce qu'effectivement, il n'y a aucun affect. Après, ça m'est arrivé, évidemment, parce que les nécessités du terrain ont fait que j'ai pu écrire sur la droite, et il y a eu effectivement des informations révélées qui n'ont pas plu à certains, des susceptibilités qui ont été blessées, des égos qui ont été un petit peu meurtris, mais c'est aussi l'obligation du métier, en fait, c'est de passer outre cela, et à partir du moment où le propos est vrai, ça m'est arrivé de me faire pourrir la gueule
c'est français,
pendant un quart d'heure par notamment, je pense, à une personnalité qui est aujourd'hui ministre d'État, se faire pourrir la gueule, se faire agonir d'injures pendant un quart d'heure au téléphone, pour au final reconnaître que l'information était parfaitement vraie et sourcée. Donc c'est le pari aussi, quoi, c'est de dire la vérité, de rapporter des faits, qu'ils déplaisent ou non. C'est plus facile effectivement lorsqu'on est très éloigné de la famille politique de l'intéressé, mais en tout cas, ça ne m'a jamais empêché de le faire.
Est-ce que vous voyez une différence dans la réception, en tout cas la compréhension de ce que c'est que la presse, si on est de droite ou si on est de gauche? On a tous un peu travaillé dans ce monde-là, et j'ai eu le sentiment, moi, plusieurs fois, que la gauche savait très bien ce que c'était que la presse, et n'a jamais considéré la presse comme des militants, même s'il y a toujours eu un jeu de pouvoir et un jeu de rapport de force. Alors du côté de la droite, c'est un peu compliqué, et j'ai trouvé toujours beaucoup plus rancunier et susceptible que les gens de gauche.
La difficulté, à mon sens, pour la presse de droite, c'est de former véritablement, et d'un point de vue presque technique et presque ouvriériste, des journalistes. C'est-à-dire des gens dont le travail, c'est strictement d'aller chercher des informations et d'aller enquêter. Je pense que le problème à droite, mais c'est peut-être le fait d'avoir été minoritaire pendant longtemps, c'est d'attirer surtout des jeunes qui ont des jeunes plumes, en fait, des gens qui ont envie d'écrire, qui ont envie de donner leur avis, qui ont envie de peser sur l'actualité et sur le monde. Moi, combien de fois cela m'est arrivé chez Boulevard Voltaire de recevoir des CV de jeunes qui étaient tout à fait compétents et talentueux, mais qui d'emblée vous disaient, moi, je veux devenir éditorialiste. Alors c'est bien,
c'est tout à fait loin,
moi aussi, enfin je veux dire, enfin vous voyez, c'est...
Et du côté des politiques, parce que ma question, c'est aussi du côté des politiques. J'ai l'impression que le rapport, que le politique de droite n'a pas encore compris ce qu'était qu'un journaliste.
Je pense que vous avez en réalité le même problème en face, et cela, c'est-à-dire que oui, pour certains politiques de droite, ils considèrent que les médias de droite sont censés être des attachés de presse gratuits en quelque sorte, parfois ils ne comprennent pas. Et je pense qu'à l'incorrect, vous l'avez expérimenté à de nombreuses reprises.
Ils sont très rancuniers.
Ils sont très rancuniers, mais je pense qu'à gauche, c'est le même problème. Vous avez vu la violence avec laquelle la France Insoumise a réagi suite à l'apparition du livre La Meute, coécrit par un journaliste de Libération, et je pense que l'explosion de colère de la France Insoumise était aussi due au fait qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça vienne de Libération, et que pour eux, Libération, comme toute bonne presse de gauche, est censée être au service de la gauche, au service du bien, au service des valeurs et des idées communes. Alors c'est peut-être la seule chose positive qu'on pourra dire, pas de Libération, en tout cas de la journaliste qui a coécrit ce livre, c'est qu'elle a commis une forme de blasphème, en réalité, dans le logiciel de gauche, qui est de dire du mal des camarades aussi éloignés ou proches soient-ils, selon ses opinions.
Alors, et comment est-ce que là, vous avez... Parce qu'on va vous épargner les questions sur Reconquête.
je répondrai à tout, cher Pierre-Alexandre, si
vous voulez. Allons-y. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, justement, qui nous demandent... Enfin, c'est une des questions les plus récurrentes qu'on nous pose ici. C'est si vous apprenez quelque chose, une révélation potentiellement nuisible au Rassemblement National ou à Reconquête, est-ce que vous la sortez ou est-ce que vous la gardez pour vous?
Oui, on la sort.
Vous la sortez.
On la sort parce que parce que c'est un devoir dans une certaine mesure. Et après, c'est toujours, il y a toujours aussi effectivement la question de quelle information sortir au moment où, par exemple, il y a des élections. Considérer aussi, est-ce que sortir l'information maintenant, cela pourrait fausser une élection, à moins évidemment que l'information soit de nature à tromper les électeurs sur la réalité de leur candidat, sur la réalité. On a alors. Évidemment, je suis en charge de la gauche, donc je vais parler de ce que j'ai connu, mais on a appris par exemple qu'une tête de liste LFI dans une ville de Seine-Saint-Denis avait caché un lourd passé judiciaire, notamment en termes en plus de violences faites aux femmes, et dans la mesure où lui-même s'était mis en avant comme un grand défenseur de la cause des femmes, et bien il avait été condamné pour violences faites aux femmes. On a trouvé nécessaire de le sortir parce que il avait clairement tromperie des électeurs. Et d'ailleurs,
c'était où ça?
C'était, alors en plus c'est même pas pour le cacher parce qu'on l'a sorti, c'était, il me semble, à Argenteuil.
D'accord.
Ah, donc la tête de liste LFI d'Argenteuil, donc qui s'est retrouvée à deux jours du second tour à accuser le retrait du soutien du Parti socialiste et du Parti communiste en raison de ses révélations. Donc c'est quand c'est de nature vraiment à changer le sens, à tromper les électeurs, à ce moment-là on se fait un devoir de le sortir. Oui.
D'accord. Donc y compris donc si c'est sur votre propre camp.
Oui. Bah,
propre camp. Cas, supposé.
Y compris si c'est la droite. Oui.
Ouais.
Vous avez eu beaucoup de procès.
Je veux pas dire que. Alors moi personnellement.
Ouais. En tant que journaliste.
Ah, moi, le seul procès que j'ai eu, figurez-vous, Arthur de Vatrigan, c'était pour un dossier sorti dans l'Incorrect. C'était sur le numéro sur le lobby LGBT. D'ailleurs, il me semble que le journal avait gagné tous ses procès à l'époque.
Bah, on en a eu une bonne quinzaine sur ce dossier-là. Ah oui, vous étiez dedans.
J'étais dedans. J'ai fait partie de la charade. Merci, d'ailleurs.
Et à Valeur, vous n'avez pas eu de procès. D'accord, la gauche n'est pas coutumière.
Moi, personnellement, non, parce que, en fait, vous êtes bien placé pour le savoir, du coup, c'est très facile d'attaquer en diffamation, mais c'est beaucoup plus difficile de prouver la réalité de la diffamation. Et à partir du moment où tout ce qu'on a pu sortir est objectif et sourcé, l'attaque en diffamation ne tient pas. Et généralement, la justice a quand même tendance à considérer que le journaliste qui a écrit est de bonne foi avant de vraiment tomber sur quelque chose de caractérisé, quoi.
Et moi, j'avais, à Valeurs Actuelles, on avait été condamné pour la couverture sur le dossier Rome. Moi, je me souviens que mon article n'avait pas été condamné.
C'était Rome l'overdose, non?
Oui, c'est ça. Mais c'est pas moi qui avais fait la couve. Mais,
très bien, bravo. Bah, voilà, oui.
Mais la couverture a été condamnée pour incitation, blabla.
La haine.
Mais l'article, non.
Quand vous avez écrit l'ampleur des dégâts, si je, ben, je, voilà,
il j'allais paraît, y venir, oui.
Il paraît que vous avez sorti un livre. Quand vous avez sorti l'ampleur des dégâts, est-ce que cette menace judiciaire, est-ce que l'idée de se faire condamner pour offense au chef de l'État a été l'un des guides de votre rédaction ou au contraire, vous y êtes allé très tranquillement?
J'y suis allé très tranquillement parce que j'avais droit à une liberté justement, enfin éditoriale totale. J'ai évidemment prévenu mon directeur de la rédaction de l'existence d'un tel projet et il n'a rien trouvé à redire et j'ai pu travailler sur ce sujet absolument sereinement et sans aucune pression diverse en tout cas. Mais ça a été un petit peu le pari de fait d'écrire sur Emmanuel Macron parce qu'il y a énormément de livres qui sont sortis sur la réalité de cet homme, sur ses défauts, sur ses qualités, sur son interprétation du pouvoir, mais il n'y avait pas vraiment de bilan qui était sorti, de bilan objectif sur la réalité de son action au-delà même de sa personnalité.
Mais justement, c'est ça qui est fascinant, parce que quand on lit l'ampleur des dégâts, d'une part, on a la confirmation de tout ce qu'on dit depuis quelques années et de tout ce qui est vérifiable, mais c'est aussi en fait une espèce de charge contre le récit macronien qui est de continuer à prétendre qu'au contraire, jamais la France n'a si bien rayonné, jamais elle n'a-t-elle été aussi bien réindustrialisée, etc. Donc, autrement, même en ne disant que la vérité, vous dites le contraire de ce que Macron continue à prétendre, lui et ses troupes.
Mais c'est ça qui est hallucinant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase d'Ernst Junger, c'est une erreur de devient une faute à partir du moment où on n'y démord pas. Et c'est un petit peu ça le problème. On a vu cette espèce de discours parallèle se mettre en place, on a vu, alors que pourtant, tous les chiffres et les données sont là, et pour tout vous avouer, lorsque j'ai écrit ce livre, je voulais aussi, peut-être aussi faire justice, en quelque sorte, aux opinions politiques, au bilan d'Emmanuel Macron et de dire peut-être qu'après tout il y a des choses qui ont été réussies, qu'on soit en accord ou en désaccord avec sa ligne ou avec sa cohérence, mais de fait il y avait rien, enfin je veux dire tous les indicateurs sont dans le rouge, rien n'a réussi, rien n'a fonctionné, rien n'a marché, et c'est aussi pour ça qu'il fallait le dire, faire abstraction de la personnalité du président de la République et répéter non, Emmanuel Macron a échoué, tous les indicateurs sont dans le rouge, il y a strictement rien à fonctionner.
Est-ce que depuis le temps vous avez trouvé qui était à l'origine de qualificatif qui s'est révélé très juste, Le Mozart de la finance.
Non, j'avoue. Non, mais j'avoue, je l'ai cherché. Ça doit certainement venir de ses parrains, que ça a dû venir sans doute d'Alain Minc, de Jacques Attali, ou des personnes qui ont tout fait pour faire monter Emmanuel Macron. Mais en réalité, on n'a jamais eu la paternité de cette citation.
Faudra la trouver un jour.
L'auditeur disait qu'il a été qualifié de Mozart de la finance, mais ne pensez-vous pas qu'il serait plutôt le Wagner de la taxe?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que les gilets jaunes ont commencé à cause d'une taxe. Tout le monde a dit les gilets jaunes ont manifesté en raison de la hausse du carburant. En réalité, c'est pas tant la hausse du carburant qui les a fait hurler, c'est la taxe supplémentaire. On rappelle qu'Emmanuel Macron, qu'on soit libéral ou non, qu'on apprécie ou non la pensée libérale dont il s'est réclamé à une époque, Emmanuel Macron s'est fait élire essentiellement sur une promesse libérale. D'ailleurs, la première année de son quinquennat entre 2007 et 2018 était vraiment à placé sous ce signe. Emmanuel Macron est celui qui a réformé l'assurance chômage pour essayer justement d'accélérer la réinsertion sur le marché de l'emploi. Toutes ces premières mesures ont été de cette essence-là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il a renoué, si vous voulez, avec ses vieux réflexes socialistes de taxes, eh bien c'est là où finalement le rideau s'est déchiré. Et c'est peut-être ce qu'il faut le plus reprocher à Emmanuel Macron, c'est lorsqu'on... Alors je sais bien que peu de monde ont lu son livre Révolution, mais quand on le parcourt, on s'aperçoit qu'il avait tout compris, il avait compris en tout cas une grande partie du malaise français, il avait compris d'où venaient les fractures et ce qu'attendaient les Français, et au lieu de se servir de cela pour résoudre justement les problèmes et tendre vers l'intérêt général, eh bien il s'en est servi pour arriver au pouvoir, et après cela, plus rien.
Alors Alexis Poulain, je crois que vous voulez prendre la parole. Mmh.
Oui, c'était juste, déjà bonjour Marc et merci pour l'invitation et le livre. En fait, ce qui m'étonne avec Emmanuel Macron, c'est que dès la première année, on a vu la catastrophe, le mensonge. Je viens de faire une interview d'ailleurs avec un entrepreneur et on m'entend ?
Oui,
très bien. J'avais un retour. Et donc, il a fait de l'esbrouf, en fait, dès la campagne de 2016-2017, et puis il n'a jamais arrêté de faire de l'esbrouf. Sauf qu'au bout d'un moment, il est rattrapé par le mur du réel, et malgré ça, il y a encore des gens qui sont là pour essayer de défendre un bilan qui n'existe pas, puisque tout son bilan, c'est « je veux être aimé, je vais tout faire pour faire du court terme, pour vous en mettre plein les yeux, des étoiles, etc. Un coup les entrepreneurs, un coup la droite, un coup la gauche, un coup machin. » Au final, tout ça, c'est n'importe quoi, et c'est un naufrage total. Et aujourd'hui, vous avez encore des gens qui attendent que Emmanuel Macron quitte l'Élysée pour vraiment déballer et faire ce livre, en fait, aurait dû être publié chaque année pour dire non mais il n'y a rien qui va. Et d'ailleurs les gilets jaunes étaient une sorte de réaction épidermique du corps social face à cet imposteur qui était Macron.
Oui, c'est exactement cela, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. C'est que un petit peu sur le côté, vous savez que Macron et son équipe sont nuls, voilà des raisons objectives et voilà des arguments à apporter à votre moulin en quelque sorte. C'est pourquoi est-ce que justement il y a cette tentative de récit parallèle qui se met en place de personnes politiques encore qui tente encore justement de sauver ce bilan. C'est parce qu'en réalité, c'est un petit peu ils sont un petit peu dans la roue du hamster, ces gens-là. C'est des gens qui sont encore au poste, pour certains totalement miraculeusement. On rappelle que les effectifs du macronisme ont fondu entre 2017 et 2024. Emmanuel Macron, on le rappelle, a été élu largement en 2017 face à Marine Le Pen, et peut-être autant, je vais lui accorder cela, vraiment autant pour le projet et pour ce qu'il incarne que pour la détestation que pouvait susciter Marine Le Pen au-delà du débat complètement raté. On a vu qu'en 2022, cela a changé puisque la majorité n'était plus absolue mais relative, et on a vu qu'en 2024, on peut revenir d'ailleurs sur cette dissolution qui était politiquement totalement inexplicable, où non seulement ils n'étaient plus en majorité relative, mais en plus ils étaient devenus les composantes minoritaires d'un bloc central lui aussi minoritaire. Et c'est cela peut-être qui a le plus marqué chez Emmanuel Macron, c'est une déliquescence extrêmement rapide de ses forces politiques, parce que de fait, la République En Marche, Renaissance, ils en sont au cinquième changement de nom, c'est dire à quel point il y a un problème de définition des termes.
En 10 ans,
c'est complètement hallucinant. Et là, il ils veulent s'appeler la Nouvelle République, qui est en plus le nom d'une presse quotidienne régionale, ce qui provoque du remous dans la région centre. Et on voit bien en réalité qu'ils n'ont jamais trouvé la formule, que tout cet appareillage était uniquement créé pour servir l'ascension d'Emmanuel Macron, et un petit peu comme les réacteurs d'une fusée qui se détachent au fur et à mesure d'une montée dans l'espace, eh bien Emmanuel Macron se retrouve seul, et au fond tout ce qu'il a démontré à ceux qui l'ont suivi et soutenu, c'est qu'en réalité il n'en a jamais rien eu à faire d'eux, et qu'à un moment donné les étiquettes politiques, qu'elles soient LREM, UDI, LR, MoDem, PS, eh bien en fait ça a jamais été son problème. Ce qui lui importe, c'est sa trajectoire personnelle. Il voit le pouvoir non pas comme tendre vers le bien commun et l'intérêt général, mais comme une performance personnelle. En réalité, il voit tout à l'aune de la performance individuelle et personnelle. Si cette performance peut inspirer des gens, et d'ailleurs dans son esprit, elle doit inspirer des gens et elle doit faire décoller la France, c'est très bien, mais que personne ne compte sur lui pour aider ou rendre l'appareil, sauf quand effectivement ça lui permet de placer quelques copains pour contrôler un petit peu plus l'état profond.
Question ?
Oui, dans le, on pouvait parler au départ d'Alain Minc et toute la clique Attali, mais dont il y avait quelqu'un d'autre présent au début, parce qu'il voulait, on avait compris qu'il voulait tuer la droite et la gauche, donc en piquant des gens de droite, des gens de gauche. Que devient Thierry Soler ?
Le recordman de la 5ème République.
Parce qu'on oublie quand même, c'est quand même un des, il me semble qu'Emmanuel Macron a lancé son mandat en disant qu'il fallait avoir un gouvernement et un entourage le plus clean possible, pas une seule mise en examen, sinon il est dégagé. On a quand même là un type qui doit battre le record de mise en examen ou d'affaires judiciaires.
Il en a sa 13e mise en examen, je crois.
Ça fait quand même pas mal. Et en fait, quel rôle il a joué, quel rôle il joue encore, et est-ce qu'il a été si important que ça dans le règne d'Emmanuel Macron ?
Il y a quelque chose de terrible dans le meeting de François Fillon, dans le rassemblement en soutien à François Fillon, place du Trocadéro, puisqu'il y avait Thierry Soler dans l'arrière-boutique, et il y avait autour de François Fillon des gens qui étaient déjà prêts à le quitter, qui avaient déjà négocié leur départ. Thierry Soler était extrêmement important, puisqu'il a été, mais tout comme Richard Ferrand l'a été pour le Parti Socialiste, il a fait partie justement de ces portes d'entrée, ces SAS, qui ont permis justement à une partie de la droite LR de glisser vers le macronisme, tout comme Richard Ferrand l'a été pour les anciens socialistes qui venaient au macronisme. Alors le point fort de cette stratégie, c'est que ça a effectivement permis d'avaler temporairement LR et le PS, c'est-à-dire que le groupe LREM en 2017, il était composé en gros d'un tiers de socialistes, d'un tiers UMP et d'un tiers société civile. Le seul problème, c'est qu'on a vu qu'au premier projet de loi du gouvernement, ça a d'ailleurs été la loi immigration portée par Gérard Collomb, eh bien en réalité cette majorité s'est effondrée, parce que en réalité le clivage gauche-droite que Macron voulait abolir, en fait il l'a reconstitué au sein de son groupe, ce qui fait qu'on l'a vu année après année, enfin on a vu, je sais, les gens s'en rappellent plus parce que le premier quinquennat c'est fabuleux, on a l'impression que c'était il y a 20 ans, mais pendant ce premier quinquennat, Emmanuel Macron a perdu au moins 90 députés. Des gens qui sont partis créer
d'autres.
Oui, des gens qui sont partis créer d'autres groupes.
Aurélien Taché,
il a commencé chez LREM, il a fini député de la France Insoumise. Joachim Sonforget. Alors on va pas revenir sur sa santé mentale, puisque aujourd'hui
plein de gens, hein.
il se fait appeler Eva, mais il vole des robes dans les couloirs de l'Assemblée. Mais Eva, mais Joachim,
il vole des robes aux députés
RN. Mais Joachim Sonforget, il a fini chez.
C'est là qu'il est trop.
Oui, Joachim Sonforget a fini chez Éric Zemmour. La psychiatre Martine Vonneur, au moment de la crise Covid, a été une fervente anti-vax, elle a été virée. Agnès Thil, la députée LREM Agnès Thil, qui a payé son opposition à la PMA par une exclusion et un espèce d'harcèlement invraisemblable mené par ses propres collègues, et en tout ça pour aboutir effectivement à la proposition de loi Collomb, où finalement les gens de droite au sein du groupe se sont dit c'est formidable. Évidemment, tous les anciens socialistes ont commencé à tiquer, en tout cas les plus cohérents d'entre eux. Et surtout, il y avait ce tiers de société civile. Alors, sans présumer de ce qu'ils pensaient sur l'immigration, on se doutait bien qu'ils ne sont pas engagés chez Emmanuel Macron pour réguler l'immigration. En tout cas, on ne s'engage pas chez Emmanuel Macron pour réguler l'immigration et pour promouvoir la remigration. D'ailleurs, concept qui n'existait pas encore à l'époque. C'est tout l'ampleur du malentendu. Et c'est pour ça que je parle vraiment de cette fusée qui largue ses réacteurs au fur et à mesure. C'est que plus Emmanuel Macron était confronté à la réalité du pouvoir, plus la République en marche en réalité était confrontée à la réalité du pouvoir, plus eh bien, elle se désagrégeait, parce qu'en réalité on avait encore une fois un clivage gauche-droite qui était enfermé au sein d'une Macronie dont je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit « soyez fiers d'être des amateurs ». Eh bien, en fait, cet amateurisme et cette multiplication de caps et d'idéologies a fait qu'en réalité, plus personne n'y a compris grand-chose très vite.
Qui sont les fidèles de la première heure qui sont encore avec lui aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a ?
Mais c'est une excellente question. Bruno Roger Petit, je crois qu'il est encore, qui fait encore partie de l'entourage. Et non, en fait, et alors justement, toute la bande originelle, ça va, les gens s'en rappellent peut-être, mais quelqu'un comme Benjamin Griveaux, comme Ismaël Emelien, comme Sibeth Ndiaye, eh bien tous ces gens qui étaient là dès 2017 et qui ont participé au lancement du, il y a même l'ancien président de la République en marche dont j'ai oublié le nom, un chauve qui a tellement marqué son époque que j'ai oublié son nom. Eh bien tous ces gens, c'était la bande originelle d'Emmanuel Macron, et tous ces gens venaient d'un seul endroit politique, c'était des Strauss-Kahniens. Et que tout le monde a vendu Emmanuel Macron comme quelqu'un d'orphelin politiquement, un espèce de nomade qui prenait un petit peu de droite, un petit peu de gauche, etc. Alors qu'en réalité, Emmanuel Macron, c'est la revanche des Strauss-Kahniens vis-à-vis du hollandisme. La suppression de la taxe d'habitation qui est sortie un peu d'on ne sait où à l'époque, eh bien c'était un des mesures phares du programme présidentiel en cours de gestation de Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Donc finalement, c'est là où Emmanuel Macron a été vraiment une arnaque, c'est que le LREM qui devait justement dépasser les clivages politiques, eh bien en réalité, ça a été une revanche de cette social-démocratie vaincue par François Hollande, qui avait très habilement d'ailleurs placé comme le candidat anti-riche, enfin c'était presque du mélenchonisme François Hollande en 2012 à l'époque. Eh bien en réalité, c'est toute cette petite bande-là qui s'est enfin vengée, et d'ailleurs, grand ultime paradoxe de l'histoire, François Hollande prépare lui-même sa revanche en 2027 pour se venger de l'ancien lieutenant Fellon.
Alors, il prétendait donc développer la Startup Nation et puis mettre fin surtout au vieux clivage droite-gauche. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi ? Où en est la Startup Nation et où en est le clivage droite-gauche ?
Mais nulle part. Le problème, c'est qu'encore une fois, économiquement, tout est mauvais. Enfin, je ne vais pas revenir sur les 1000 milliards de dettes. On peut revenir.
Ah, il veut relancer le nucléaire aussi.
Sur le nucléaire, ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel...
Après avoir fermé.
Oui. Et Emmanuel Macron, il y a cette archive absolument magnifique. Emmanuel Macron n'était encore que dans l'entourage de Jacques Attali. Il avait déclaré « S'il faut chercher un milliard, je sais où la trouver. On va la trouver... On va la trouver dans la dissuasion nucléaire. » Ce à quoi même Jacques Attali lui a dit, tu dérailles, on peut pas toucher à cela. Et le pire, c'est que la bonne santé internationale actuelle d'Emmanuel Macron, elle n'est basée que sur une seule chose, sur la dissuasion nucléaire, sur la souveraineté nucléaire de la France. En bref, tout ce qui a été construit par tout le monde, sauf lui. Enfin, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'Emmanuel Macron doit sa stature internationale à ses prédécesseurs qui ont tous littéralement fait l'inverse de ce qu'il a toujours vendu.
C'est ça qui est fascinant dans ce quinquennat, c'est depuis un an et demi, la souveraineté, la diplomatie, tout ce qu'il a contribué à détruire, en fait, c'est pas qu'il ne l'a pas construit, c'est qu'en plus, il a activement détruit tout ce qui fait la force de la France. Il en a endossé les habits, il en a endossé les discours. Voilà. Il projette un porte-avions français, il explique qu'il faut être puissant et fort, il explique qu'il faut remilitariser la France. Brusquement, il essaye à être diplomate, alors que ça fait partie du bilan, d'ailleurs, que vous soulignez dans votre livre, diplomatiquement, le type était non seulement mauvais, mais même pire que mauvais.
Mais c'est nocif presque. En fait, c'est presque. Enfin, et il faut voir. Le problème, c'est la limite du en même temps. La question palestinienne, par exemple, elle est passionnante. Dans l'absolu, en se prononçant pour une solution à deux États, pour en reconnaissant l'État palestinien, Emmanuel Macron n'a fait que retrouver la position originelle de la France sur le sujet. Enfin, je veux dire, c'est une position qui est presque gaulliste. On pouvait même y voir une forme de non-alignement, justement, dans un monde qui doit encore choisir entre le bloc de l'Est et le bloc américain pour faire court. Eh bien, Emmanuel Macron, on pouvait voir dans sa politique diplomatique l'essai de quelqu'un qui veut justement incarner une troisième voie, une forme d'indépendance. Enfin, la réception de Vladimir Poutine en 2017, qui n'avait pas encore envahi l'Ukraine à l'époque, mais la réception de Vladimir Poutine en 2017 au château de Versailles, je défie quiconque à droite d'y avoir trouvé quelque chose à redire, puisque dans les faits, c'était un sans-faute. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'on retrouve un petit peu cette personnalité qui va au puits du fou pour expliquer que dans le fond, les Français ont toujours été monarchistes, qui va expliquer un peu plus loin qu'il n'a jamais été foncièrement socialiste alors qu'il est en train de construire quelque chose sur les ruines du Parti Socialiste, qui va aller expliquer qu'il n'y a pas de culture française, qui voit des Maliens, des Sénégalais, etc. C'est, en fait, vous l'avez compris, le problème, c'est le « en même temps », et que lorsque vous vous prononcez pour la reconnaissance de l'État palestinien un an et demi après le 7 octobre, tout ce que vous faites en réalité, c'est donner raison à tous les groupes terroristes comme le Hamas, et au fond, c'est céder à la menace de la violence. Et c'est peut-être ça le drame d'Emmanuel Macron sur la problématique africaine. S'il y avait bien un sujet sur lequel François Hollande était quand même compétent, ou en tout cas avait quand même une ligne claire, c'était sa politique africaine, Emmanuel Macron est arrivé et a tout mis par terre. Enfin, je veux dire, on s'est fait virer de partenaires africains, de partenaires qui existaient depuis des décennies. Je pense au Tchad, où Jean-Noël Barrot descend descend de son avion pour faire la morale au président tchadien en lui expliquant que quand même c'est pas très démocratique la façon dont il a été élu, Jean-Noël Barrot remonte dans son avion, communiqué de la présence tchadienne demandant le retrait définitif des troupes françaises de son territoire. Enfin, si vous voulez, c'est ça qui a été terrible chez Emmanuel Macron, c'est que il fait tout ce qu'il faut pas faire, par exemple avec les pays africains, c'est faire de l'entrisme culturel, c'est aller faire la morale aux pays africains sur les droits des homosexuels, les droits des minorités quelconques, mais en revanche, qui abandonne toute notion de souveraineté française sur ces territoires.
Et avoir surtout une vision incroyablement ethnocentrée, parce que, notamment quand il nomme un ministre des Affaires étrangères qui revendique son homosexualité, c'est-à-dire ne pas du tout tenir compte des mentalités des gens que ce ministre va devoir rencontrer. Moi, je me souviendrai, mais longtemps, d'un ministre angolais que j'avais rencontré, et qui disait qu'en fait, il ne pouvait même pas serrer la main du ministre homosexuel, dont objectivement j'ai oublié le nom.
Stéphane Séjourné.
Oui, voilà.
Le ministre des Affaires étrangères, ministre étranger aux affaires, comme dit.
Voilà. Et parce qu'il disait, en fait, si on me voit en photo, les gens vont croire que l'homosexualité se transmet par la poignée de main et que j'en suis, et donc je ne peux pas. Et c'est vraiment une méconnaissance totale des mentalités et un mépris peut-être aussi.
Et parce ça que débouche les gens... d'ailleurs au Sénégal sur une montée... des populations de francophones et les homosexuels à la suite plus, de la promotion qui a été faite dans ces pays par l'ambassadeur
Absolument.
Français.
Là, c'est une forme de néocolonialisme en réalité.
Et un ambassadeur oui. des LGBT. Oui, c'était quand même fou. Et alors, j'en reviens à Marc Hainaut.
Donc, auteur de le Proche-Orient.
L'ampleur des dégâts. Sécuriser le Proche-Orient, oui. On sait que Emmanuel Macron, en tant que président, est aussi le chef des armées. Et là. Donc on est très fiers de balader notre porte-avions, donc la France libre. Donc c'est sûrement très bien d'avoir un groupe aéronaval. Oui, ça c'est Charles de Gaulle qui se balade en ce moment, et nous on lance la France libre. Mais on parlait de la guerre en Ukraine tout à l'heure, mais là j'ai vu récemment les Ukrainiens, qui sont quand même pas la cinquième puissance mondiale, bon, ils viennent d'abord... ils ont lancé un truc phénoménal, un petit drone. Quand on voit à quel point la guerre en Ukraine à partir de 2022 change totalement toutes les perspectives, et je pense aux porte-avions, parce que ça me fait penser au groupe naval de la mer Noire, le groupe russe de la mer Noire, qui a été littéralement démonté par des petits drones à 3000 euros pièce, et qui a dû se réfugier derrière Sébastopol, où il n'ose plus pousser le bout d'une proue de bateau. Et nous, on sort un groupe, enfin un nouveau porte-avions. Et là, les Ukrainiens, maintenant, viennent de sortir un petit drone qui va à 300 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 300 km/h, ça fait la taille d'un pigeon, ça fait la taille d'un petit ordinateur comme ça. Ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que. Et nous, on sort un gros porte-avions qui pourrait se faire dégommer par trois drones de ce genre. Je me demande aussi si, en tant que chef des armées, n'est pas un peu à la ramasse.
J'arrive le galou, je vous en prie.
Non, allez-y. Non, les tenants des grands systèmes d'armes pensent que le drone finira par se démoder puisqu'il peut être abattu assez facilement par des canons ou des mitrailleuses ou des mitraillettes à répétition. Donc on n'a pas encore trouvé le moyen de les abattre, mais ouais. Ça ne va pas tarder. Enfin, c'est la thèse des fabricants de gros équipements
militaires. En attendant, l'Iran vient de mettre en échec la première puissance mondiale avec des drones. C'est quand même une question. Enfin, je sais pas, on devrait quand même s'interroger. Ça fait, la guerre en Ukraine, ça fait depuis 2022, on est en 2026. On vient de voir que l'Iran vient de renouveler avec la même stratégie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que qui a été contacté comme conseiller dans les deux camps, d'ailleurs, c'est les Russes pour l'Iran, les Ukrainiens pour les États-Unis. Oui. C'est pas l'OTAN. Et c'est quand même intéressant de voir que... Et nous, en France, on a l'air de ne pas tenir compte du tout des évolutions stratégiques. On a l'impression qu'avec Emmanuel Macron, on vient de passer 10 ans d'entropie, c'est-à-dire 10 ans de stagnation phénoménale. Voilà.
Le problème, alors je ne suis pas un spécialiste évidemment des armes, d'artillerie lourde et autres joyeusetés. Néanmoins, il y a deux choses. Premièrement, c'est pas uniquement du fait d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi de ses prédécesseurs. On est encore un petit peu dedans parce qu'Emmanuel Macron fait tout pour qu'on reste un petit peu dedans sur l'idéologie européenne en fait et sur la promesse. Ce nouveau porte-avions, cela fait des années que le projet est en cours. Il a été ralenti parce que pendant des années on s'est mis en tête de construire un porte-avions avec la Grande-Bretagne comme si à un moment on avait des intérêts équivalents. Le temps d'abandonner définitivement ce projet qui évidemment n'a jamais vu le jour. Et bien tout cela a pris du retard. C'est pareil sur l'avion de combat qu'on est censé développer avec les Allemands. Le problème c'est qu'on n'arrive pas si vous voulez, à se dépêtrer de cette idéologie pro-européenne, et que, eh bien, cela fait que la France peut accuser du retard. Après, heureusement pour la France, Emmanuel Macron est certes le chef des armées, mais il n'est pas, il laisse quand même à l'armée française le soin de définir quand même les actes stratégiques. Et là, on est sur le registre de la, est-ce qu'on fait confiance ou pas à nos armées pour anticiper au mieux les risques et faire au mieux avec ce qu'ils ont. Et cela, j'ai la faiblesse de croire que c'est le cas.
Bon. des auditeurs nous parlent.
Et si tout ce malaise d'identité politique ne reflétait que le triomphe des plus décomplexés d'une génération d'olto, élevée sans aucune contrainte dans un climat ludique et festif à tout prix, ce qui a libéré les plus psychopathes, les plus narcissiques, les plus machiavéliques de ces immatures incapables de comprendre leurs propres limites.
Ouf. il faut sans doute y voir, en tout cas. Ce qui est certain, et pour peut-être battre en brèche un peu l'idée de l'homme providentiel, en réalité, on a aussi les hommes politiques qu'on mérite. On a les hommes politiques sont le fruit d'une époque. Ce ne sont pas des surhommes. Ils ne viennent pas de la cuisse de Jupiter, c'est le cas de le dire. Ce sont des gens qui représentent en réalité la société française. Et dans le cas d'Emmanuel Macron, je ne sais pas quel âge a cet auditeur, mais il faut trouver la clé de l'élection d'Emmanuel Macron et de son maintien au pouvoir. En réalité, elle est plutôt à chercher du côté des retraités. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est de voir au fond qui est encore macroniste aujourd'hui.
Les retraités qui n'écoutent pas.
De certains retraités.
Non, mais évidemment, on va parler de tendances qui sont majoritaires, mais qui ne correspondent pas à l'intégralité des gens concernés par cette tranche d'âge. On va prendre les précautions. Ce qui est certain, c'est qu'en 2017, par exemple, Emmanuel Macron était vraiment le candidat des actifs. C'était plutôt les jeunes, effectivement, les 18-35 ans qui votaient pour Emmanuel Macron. Et en réalité, moi, ça m'avait toujours surpris à l'époque de voir le score important qu'avait fait François Fillon malgré la concurrence d'Emmanuel Macron et le poids des affaires. En réalité, ce sont les retraités qui ont sauvé l'élection de François Fillon, qui lui ont permis d'espérer un petit peu accéder au second tour. Et on a vu cet électorat se décaler au fur et à mesure vers le macronisme. On l'a vu d'ailleurs en 2019, ce sont les retraités qui ont sauvé le désastre annoncé d'Emmanuel Macron aux européennes face au Rassemblement National. Ça n'a pas empêché Jordan Bardella d'arriver en tête, mais le poids des retraités a fait que la liste menée par Nathalie Loiseau avait atteint quand même un score non négligeable. Ça s'est reproduit en 2022 et ça s'est reproduit après dans toutes les élections. Et j'en veux pour preuve, au moment des débats sur le budget, des débats 2024 sur le budget, c'était 2024 parce que c'était juste avant les européennes. François Eckhall, haut fonctionnaire spécialiste un petit peu de ces questions-là, rencontre Bruno Le Maire et lui dit il faut faire quelque chose au niveau des retraites. C'est l'éléphant dans le couloir de Bercy, ça coûte des centaines de milliards. Et Bruno Le Maire lui fait cette réponse lapidaire, on ne peut pas, on est en période électorale.
Ah mais ça, c'est la vieille réponse du politicien.
C'est encore une autre arnaque du macronisme qui a promis d'en finir avec la vieille politique, et au final, on en reste effectivement au vieux réflexe électoraliste. On peut aussi mettre cela en parallèle avec la politique liée pendant le Covid, où le fait de vouloir à tout prix ménager les retraités, vouloir à tout prix faire en sorte qu'ils ne se sentent ni exclus ni marginalisés, eh bien, c'est aussi à mettre. Alors certes, c'est une question de responsabilité, parce qu'aucun d'entre eux n'avait envie de se prendre des procès après la crise. On les accusait d'avoir tué leur grand-mère, mais il y avait aussi cette volonté électoraliste de sacrifice, en fait, on peut le dire, de sacrifice de la jeunesse pour ne pas justement perdre ce très précieux soutien des retraités.
Alors aujourd'hui, quelle est la crédibilité qui reste à Emmanuel Macron? C'est-à-dire, en gros, pendant l'année qui vient, qu'est-ce qu'il peut faire?
Démontrer que tous ses potentiels successeurs sont nuls, déjà. pour commencer. Non, alors Emmanuel Macron s'est occupé à plusieurs choses depuis la dissolution ratée de l'Assemblée nationale et la succession des gouvernements, c'est de verrouiller les institutions. On l'a vu, ouais. Il a nommé Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes. On rappelle qu'Amélie de Montchalin est très jeune, elle a une petite quarantaine d'années, qu'elle peut donc légalement siéger jusqu'en 2048 à peu près, c'est-à-dire que seul le président de la République.
On a pour une trentaine d'années. Quoi.
Une bonne trentaine d'années, oui, voilà. Ça, c'est le premier point. Il a nommé, évidemment, son fidèle Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Et là, il vient de nommer son ancien chef de cabinet, je crois, à la présidence du Conseil d'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les trois institutions censées contrôler le pouvoir, en réalité, sont aux mains d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, dans le cas d'Amélie de Montchalin, ça va être extrêmement intéressant de voir comment, l'année prochaine, la présidente de la Cour des comptes va juger le bilan de la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. Enfin, si vous voulez, elle va à un moment donné, l'institution qu'elle préside va devoir rendre un avis objectif sur son propre bilan de ministre. Et c'est là où on voit un petit peu les limites. Alors, c'est pas anticonstitutionnel de faire ça au sens légal. Emmanuel Macron en a parfaitement le droit. Mais on voit bien, en réalité, toujours cette volonté de tordre la Constitution et d'en sacrifier l'esprit à son propre profit politique. Et ça vient effectivement, et tout vient effectivement à cette essentielle question. Est-ce qu'Emmanuel Macron en a fini avec la politique? Il jure que oui. Il a déclaré qu'il ne comptait pas se représenter en 2032, mais il est vrai que tout a été fait pour nous démontrer l'inverse. Toutes les institutions sont verrouillées. Il a pris soin de ne nommer aucun dauphin. Enfin, Gabriel Attal a été fauché en plein vol. Enfin, il y a cette image terrible de Gabriel Attal donnant Matignon à Michel Barnier. Enfin, Gabriel Attal, espoir de la Macronie, cédant sa place à Michel Barnier, vieux routier de la politique que tout le monde pensait mort politiquement. Et Édouard Philippe, qui ne se remettra jamais d'avoir été le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron, d'avoir acté la fermeture de Fessenheim et d'avoir, en fait, validé tout ce qui a mis notre souveraineté par terre. Enfin, après lui, le déluge. Ça, honnêtement, c'est une certitude. En tout cas, tout est fait.
Est-ce que c'est calculé ? Oui.
À mon sens, mais c'est ma libre interprétation, en tout cas, tout est fait pour qu'effectivement, il y ait une alternance en 2027, quelle qu'elle soit, quel que soit le futur président, d'ailleurs, qui pourrait être du Parti Socialiste ou du Rassemblement National ou que sais-je, mais que tout est fait pour lui rendre la vie impossible, pour finalement... On peut gouverner avec une majorité absolue en 2027, ça va être compliqué au vu de la balkanisation des forces politiques, mais ça va être encore plus complexe. Ça fait qu'effectivement, ces grands corps de l'État qui ne seront plus en réalité sous le contrôle direct du président en exercice. Donc tout semble préparé pour qu'il y ait effectivement une alternance en 2032 et que Emmanuel Macron n'ait pas du tout renoncé à cela.
Alors, est-ce que, à votre avis, Marc Hainaut ou Jean-Yves Le Gallou, est-ce que on peut constitutionnellement remettre en question ces nominations?
Non, elles sont encore. En tout cas, moi, j'en ai parlé avec un constitutionnaliste, on va dire assez médiatique, qui m'a dit que, en tout cas, sur la nomination d'Amélie de Montchalin, il dit c'est non, c'est pas attaquable.
Impossible.
C'est inattaquable.
Elle est là pendant 28 ans, serait quand même le fromage républicain le plus hallucinant qui soit,
il en a le droit, c'est une insulte à l'esprit de la Constitution dans l'absolu, mais constitutionnellement, c'est légal.
Oui, de toute façon, s'il n'y a pas une réforme de la Constitution et une remise en cause d'un certain nombre de choses, il ne se passera rien en 2027.
Donc il faudrait une réforme constitutionnelle pour remettre en question...
L'affaire de Montchalin n'est que marginale par rapport à un ensemble beaucoup plus vaste.
Lorsque Pierre Moscovici était président de la Cour des comptes, il y avait eu on a tous vu qu'Emmanuel Macron avait supprimé l'ENA pour créer la même chose en gros, mais avec un nom différent. Mais une des conséquences de cela, c'est que on n'entre plus à la Cour des comptes par classement. Alors le fonctionnement du classement avait évidemment son avantage et son inconvénient, mais au moins il y avait une forme de neutralité, si vous voulez, dans les personnalités qui entraient à la Cour des comptes. C'était vraiment dû au classement. Aujourd'hui, avec la réforme de l'ENA, le président de la Cour des comptes peut nommer strictement qui il veut. Il peut appeler qui il veut, ce qui fait qu'en fait ça a ouvert la voie à une forme de clientélisme qui ne dit pas son nom. Alors l'annuaire de la Cour des comptes, je crois qu'il est totalement public. Il suffit de vérifier toutes les entrées qui ont été faites depuis 2022 et on s'aperçoit que une grande partie des nouvelles recrues sont proches, plus ou moins proches du Parti Socialiste par exemple. Ça c'est une réalité.
D'accord. Et qui les nomme alors?
C'est le président de la Cour des comptes, donc Pierre Moscovici à l'époque, Amélie de Montchalin maintenant. Mais cela a été possible grâce à la suppression de l'ENA, qui est une décision d'Emmanuel Macron.
D'Emmanuel Macron, oui. Et alors, il avait un certain nombre de chantiers dont il aurait voulu être le grand patron avant de partir. On a notamment l'euthanasie, on a Internet interdit aux mineurs. Alors d'abord, ce sont que des grands chantiers très libéraux. Ça fait envie quand on est un grand libéral.
Très, très prioritaire, surtout.
Et en plus, oui, dont tout le monde se soucie, évidemment. Il avait aussi le retour du service militaire volontaire, donc, ainsi que le Nutri-Score de l'information. Alors,
et vous voyez,
ce sont des chantiers majeurs. Est-ce que vous pensez qu'il va vraiment essayer d'en mettre un ou deux en place, ou est-ce qu'on s'en fiche et on peut dormir sur nos deux oreilles?
Alors là, pour l'euthanasie, c'est pas tant la volonté du président de la République qui est inquiétante, ce serait plutôt celle de la présidente de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est qu'on l'a bien vu, les seules victoires parlementaires de l'idéologie macroniste ces dernières années ont été sociétales, entre la On peut bon pas envoyer. Il y a eu la PMA, la constitutionnalisation de l'IVG, et maintenant l'euthanasie. Et c'est une volonté très forte de Yael Braun-Pivet de laisser sa trace dans l'histoire, notamment en ce sens. Là où ça va être un peu plus compliqué pour eux, c'est qu'ils ont perdu le rapporteur du texte, donc le député Olivier Falorni, qui a été élu maire de La Rochelle et qui a quitté donc l'Assemblée nationale. Et il va falloir trouver un nouveau rapporteur. Et c'est un petit peu la question en cours en ce moment. Il y a en tout cas une volonté du Bloc central d'aller très très vite sur cette question. Après, quand on parle avec même des anciens ministres de la Santé issus du Bloc central, ils disent que vu le calendrier parlementaire et vu tout le travail qu'il reste à faire, il y a peu de chances pour eux que cela soit tranché avant l'élection présidentielle. Donc il y a un petit
espoir,
une course contre la montre vis-à-vis de ce texte, et certains pensent qu'il est possible que ça n'aille pas au bout.
Et puis des députés se changent d'avis également.
Oui.
Si vous regardez, oui. La différence entre le premier et le deuxième vote n'est pas énorme, mais ceux qui vont s'abstenir, ça augmente, et puis beaucoup commencent à prendre la parole peu en on, beaucoup en off, pour dire que, bon, plus on en parle et plus on se rend compte qu'il y a un danger grave, et donc il y a ça qui va avec.
D'accord,
c'est ça qui est intéressant.
C'est un petit peu, encore une fois...
Si on peut faire la nique à Macron, ils vont pas s'en priver non plus.
Mais c'est un des problèmes du macronisme aussi, c'est qu'on ne peut plus les croire, c'est qu'ils ont basé cette proposition de loi en disant « ne vous inquiétez pas, il y aura des garde-fous », tout en démontrant pendant l'intégralité du débat que les garde-fous étaient là pour sauter. C'est comme d'ailleurs constitutionnaliser l'IVG pour ne plus y toucher. En réalité, ils démontrent eux-mêmes qu'il est très facile de toucher à la Constitution. Donc finalement, c'est un petit peu ça le drame, c'est que c'est une promesse, un élan, le mur, quoi. J'ai pas mieux là.
Écoutez, bien résumé. Il est 18h29, ça me semble une excellente conclusion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Marc Hainaut, donc auteur de L'ampleur des dégâts aux éditions de l'Artilleur, journaliste politique à Valeurs Actuelles, patron du Restons Courtois du jeudi de 17h30 à 19h30. Merci encore et on se retrouve dans 2 minutes pour le rendez-vous de la réinformation. À tout de suite.
Merci à vous.